Versement de contribution financière au centre Pompidou-Metz, Monsieur Schumann.
Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Comme il est proposé de verser une contribution financière pour l'année 2012 de 400 000 euros et qu'il est indiqué dans la motion que vous avez sous les yeux que l'année 2011 a vu le centre Pompidou-Metz accueillir 600 000 visiteurs, il est toujours bon de savoir ce que représente ce chiffre de 600 000 visiteurs. Et rappeler par là, et plus généralement, que la culture en France est certainement parmi les choses que nous produisons une de celles que nous vendons le mieux. Vous excuserez l'aspect comptable et quelque peu trivial. La France, dont la grande question semble être aujourd'hui si nous l'aimons ou pas, qui l'aime ou qui ne l'aime pas, la France, c'est 1212 musées, 56 millions d'entrées selon les dernières statistiques du ministère de la Culture en date de 2009. Selon ces statistiques, les 12 premiers musées se trouvant hors Versailles à Paris, donc le Louvre, 8 388 000 visiteurs, au Petit Palais, 476 000 visiteurs. Premier musée de province en 2009, Pompidou n'était pas encore là, le musée Granet à Aix-en-Provence, 435 000 visiteurs. Sans considérer l'année d'ouverture, donc 2010, et sans préjuger de la programmation exceptionnelle de 2012, le CPM en 2011 se situe donc comme le premier musée hors Paris. Pour information, et puis pour sortir un peu, je dirais, du débat messino-messin, pour mettre les choses un peu en perspective, le musée des Beaux-Arts de la sixième ville des États-Unis, Philadelphie, musée qui possède entre autres la collection la plus importante de Marcel Duchamp, est fréquenté par 800 000 visiteurs. La motion est en conséquence. Je vous remercie.
Et qui souhaite prendre la parole? Monsieur Thiel, Monsieur Maréchal, Monsieur Lecadir, le docteur Khalife et Monsieur Thierry Jean. Alors, Monsieur Maréchal, Monsieur Lecadir, le docteur Khalife et Monsieur Thierry Jean. Alors, Monsieur Thiel, s'il vous plaît.
Oui, Monsieur le maire. Merci au rapporteur d'avoir souligné toute l'importance du centre Pompidou. Je voudrais faire une observation, c'est qu'effectivement, celui-ci rayonne de manière absolument extraordinaire et l'on peut s'en féliciter. Toutefois, le sentiment général est que notre niveau de prestation extra-centre Pompidou, je veux parler de l'accueil que l'on peut faire dans tous les domaines, des touristes qu'on rencontre encore trop souvent un peu perdus dans la ville ou à la recherche en tous les cas de commerce ou pour se nourrir ou se loger, que nous ne soyons pas encore au bon niveau. Je ne sais bien que ça ne dépend pas de la municipalité entièrement, mais je dis qu'il y a là un manque d'appropriation collective, je dirais, de tous ceux qui participent à ce mouvement. Je voudrais dire en deuxième point, et je pense que Metz en sera extrêmement satisfait, que dans les documents de campagne de notre candidat, au chapitre culture, la seule image que l'on voit est celle du président et du centre Pompidou de Metz. C'est une très belle fierté pour ce qui nous concerne. Enfin, je voudrais remarquer un petit manque dans la motion qui me chagrine un petit peu. Je dis ça de manière très courtoise à mon ami Antoine Fonté qui en est le signataire. C'est que l'on parle d'un certain nombre d'expositions et on oublie la principale qui a lieu actuellement et qui est l'exposition R, et qui est une exposition absolument remarquable et qui, c'est dommage, n'est pas citée dans la motion comme étant une exposition phare, alors qu'en plus elle répond de manière très harmonieuse à une exposition qui a lieu au centre Pompidou à l'heure actuelle et qui parle, elle, du mouvement créé par la danse, et il y a un rapport entre R et la danse. Voilà. Et ce que je voulais dire, je pense que j'avais rien oublié. Non. Je vous remercie.
Déclaration de M. Thiel. Merci. Ben, c'est noté. M. Maréchal.
Merci, M. le maire. Je pense que ce soir, il faut qu'on fasse un peu le point sur le fonctionnement de cet établissement. Je voulais vous rappeler que le 13 septembre dernier, les élus communistes de la majorité municipale avaient adressé un courrier au président Seban, s'agissant notamment pour dénoncer le décalage important entre la modernité affichée du centre et la situation des personnels qui y travaillaient. Et pour ma part, il faut quand même qu'on ait, de ce point de vue-là, un certain nombre de réponses. Malheureusement, M. Seban ne nous a pas répondu, ou plutôt, l'établissement public a répondu par la publication de deux nouveaux marchés publics. Et je crois que là-dessus, il faut qu'on rappelle un certain nombre de choses. 400 000 euros, c'est une somme importante. Est-ce que cette somme finance le centre Pompidou de Metz ou est-ce que cette somme finance directement les actionnaires de la société prestataire de services? Je pense qu'il faut y compris regarder que dans cette situation-là, est-ce que le centre Pompidou Metz est un établissement public avec des missions de service public et donc quel statut du personnel? On ne peut pas rester indépendant, on ne peut pas rester à côté de cette question importante, à savoir si on a un établissement public, quelles doivent être ses missions, qui doit remplir ses missions et quels doivent être les statuts du personnel. Aujourd'hui, un salarié travaillant pour la société Fonregie gagne en moyenne 870 euros par mois. Sur les 45 salariés de Fonregie, aujourd'hui, seuls 4 sont en CDI à temps plein. Le nouveau marché public qui a été approuvé par le dernier conseil d'administration du Centre Pompidou est un marché public qui, de mon point de vue, réduit la voilure. Dans une tribune d'un quotidien, j'avais comparé le Centre Pompidou à un grand paquebot à court de carburant en soulignant notamment, M. Thiel peut le rappeler également, il peut s'en souvenir, que c'est un établissement public voulu par l'État et qui aujourd'hui ne bénéficie d'aucun fonds public d'État. C'est la première fois qu'un établissement public national décidé par l'État est financé totalement par les collectivités locales, avec les conséquences que vous savez pour la région Lorraine, pour la ville de Metz et pour Metz Métropole. Et de ce point de vue-là, M. Sarkozy, le jour de l'inauguration, il a oublié une seule chose, le chéquier, la contribution pérenne de l'État. Mais voilà, mais ça, s'il vous plaît, écoutez-moi. Merci. Hein? Parce que, d'accord. Voilà, des œuvres. Les œuvres, elles appartiennent à la nation. Elles peuvent être exposées partout dans la France. Il y en a 65 000 qui, pour l'essentiel, restent dans les tiroirs et dans les fonds de cale du Centre Pompidou. Donc, je continue. Un des prestataires de services, Fonregie, 47 salariés. Aujourd'hui, il est le marché arrive à échéance. On avait, nous, souhaité, nous et les commis, on avait souhaité qu'on mette les cartes sur table. Qu'on fasse un audit clair sur le fonctionnement et le financement du Centre Pompidou. Aujourd'hui, les sociétés prestataires intervenant sur le Centre Pompidou ont un taux de profitabilité entre 20 à 30%. Autrement dit, sur un marché public de 1,4 million d'euros, Fonregie pour ne pas le nommer, 400 000 euros tombent directement dans la poche des actionnaires. C'est notre contribution, nous. Alors, M. Fonté, vous m'apporterez des réponses, mais moi, j'aime bien, je suis comme Saint Thomas. J'aime bien croire des chiffres et j'aimerais bien avoir des chiffres précis que pour l'instant je n'ai pas. Le nouveau marché public, alors on parlait du paquebot. Malheureusement, pour les salariés, ce ne sont pas des matelots qui travaillent dans un paquebot. Pour les salariés, ce paquebot-là, c'est une véritable galère. Hein ? 870 euros, ce sont des rémunérations qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Est-ce qu'aujourd'hui, les politiques publiques peuvent conduire à de telles situations de précarité et de pauvreté quand on sait que la question de l'emploi est la première préoccupation de la population dans ce pays. On a dit tout à l'heure qu'on avait de grandes ambitions, on a raison de le faire, sur la fréquentation. Aujourd'hui, le marché, comme vous allez au centre Pompidou, il est ouvert certains jours jusqu'à 20h. Dans le nouveau marché public, l'ouverture est ramenée le jeudi et le vendredi à 18h. Deuxième chose, on a un effectif de caisses qui permettait d'avoir 2 caisses par jour. Dans le nouveau marché public, il n'y a qu'une seule caisse par jour. Le week-end, il y en avait 3, il n'y en a plus que 2. Donc, je crois que là, on touche... Alors, ça, c'est des informations que je n'ai pas inventées et qui sont directement issues du marché public qu'on peut télécharger sur le site du Centre Pompidou-Metz. Donc je crois quand même que, de ce point de vue-là, la culture a un coût. Et on voit bien que le coût de fonctionnement est quelque chose de très important pour les collectivités locales concernées. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut aujourd'hui continuer, le Centre Pompidou a fait un choix que je regrette, que je condamne, d'aller vers un nouveau marché public. On a aujourd'hui un établissement public avec des salariés qui sont totalement de droit privé. On a quatre, cinq, six employeurs différents. Ça veut dire qu'on précarise les emplois, on divise les salariés, il n'y a pas d'unicité de statut. Et donc, derrière ce Centre Pompidou à la modernité affichée, il y a un modèle économique, un modèle social, un modèle politique. Le modèle politique, c'est quoi? C'est des fonds publics gérés dans le cadre d'une structure publique, mais où essentiellement les centres de gestion, les décisions sont pilotées par des intérêts privés. Donc, la multiplicité des sociétés intervenantes fait de ce Centre Pompidou une véritable tour de Babel. On confie des lots, des marchés à différents prestataires et on ne sait pas comment les contrôler. Ou alors, il faudrait embaucher des salariés pour contrôler les prestataires de services. Je pense, moi, pour ma part, que d'abord, il y a les préoccupations sociales, mais il y a aussi les questions de bonne gestion de deniers publics. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir pourquoi le Centre Pompidou a fait le choix de l'externalisation, alors qu'en gros, on sait que le taux de profit voulu par ces sociétés de prestataires de services fait perdre un pourcentage important du marché concédé. Et en plus, en termes d'efficacité, on voit bien que le nouveau cahier des charges est beaucoup moins contraignant. Il est beaucoup moins contraignant. On avait auparavant des niveaux de recrutement pour les salariés qui étaient imposés. Aujourd'hui, c'est des recommandations. Je pourrais en parler longtemps, je ne veux pas être trop long. Mais je veux quand même dire ceci. Un dernier point, monsieur le maire, un dernier point qui, à mes yeux, quand même important. C'est ce que M. Fonté m'a rappelé dans un échange de courrier qu'on a eu. Les collectivités locales sont majoritaires au Centre Pompidou, au conseil d'administration du Centre Pompidou. Aujourd'hui, les salariés qui travaillent pour la société font une régie. 45 salariés. Aujourd'hui, dans le nouveau marché public, si demain un ou deux prestataires prennent le marché, ils n'auraient même pas la garantie d'être maintenus dans leurs emplois. Je crois, monsieur le maire, que nous avons la responsabilité de l'efficacité des politiques publiques. Et quand je parle de l'efficacité des politiques publiques, il faut associer, conjuguer l'efficacité économique, l'efficacité sociale et l'efficacité éthique. Je vous remercie.
Alors, nous avons M. Le Cadir.
Oui, M. le maire, chers collègues. Je crois que la réussite de Pompidou est une fierté pour tous les Messins, même si ce n'était pas, au fond, garanti. Moi, j'essaye toujours de garder en souvenir les débats qu'on a eus ici, y compris par rapport aux aménagements des à côté, y compris par rapport à notre capacité à accueillir les touristes. Et je trouve qu'on a fait un très bon travail. Aujourd'hui, globalement, les choses se passent très bien. Les touristes qui viennent à Metz sont satisfaits. Et j'aurais aimé vous entendre saluer ce fait-là, parce que si aujourd'hui Pompidou avait été un échec, vous serez les premiers à sauter sur la table. Et je rappelle qu'en 2008, on a repris le chantier du Centre Pompidou à l'arrêt. Et donc on a déployé un gros travail pour réussir ce chantier et réussir son ouverture. Et comme dirait l'autre, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point, en janvier dernier, Nicolas Sarkozy a osé, il ose beaucoup, mais là, il a osé dire à Marseille, lors de ses vœux à la culture, que le Centre Pompidou, tenez-vous bien, faisait partie de son bilan culturel de son quinquennat 2007-2012. Rien que ça. Alors, d'abord, Monsieur Califé, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce chantier, c'est grâce à l'ancien maire qui l'a lancé. C'est aussi grâce à cette nouvelle majorité qu'il a terminé. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais au-delà de cela, je crois que, et Monsieur Maréchal l'a rappelé, je crois que le fait que l'État ne s'engage pas financièrement dans le fonctionnement de ce centre, qui est un centre, même s'il est en région, mais qui est un centre à vocation nationale, voire internationale, c'est quelque chose qui ne donne pas le droit, à mon avis, au gouvernement qui a refusé de mettre des euros dans le fonctionnement, d'aller faire de la récupération. Et pour terminer, heureusement qu'il a mis la photo de Pompidou dans son programme culturel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il n'avait pas mis cette photo-là, qui est de la récupération, il y aurait eu du vide. Parce que le bilan culturel du président Sarkozy, c'est du vide. Chirac a le quai Branly, Mitterrand, je n'ose dire les réalisations culturelles, Sarkozy, c'est du vide.
Monsieur Lécadire, écoutez, on va laisser César et Brutus, je propose, sinon ça va finir en combat de gladiateurs, et je passe la parole au gladiateur Thierry Jean, en lui demandant d'être très modéré.
Il
y a le docteur Califet, pardon. Docteur Califet avait demandé la parole. Oui, mille excuses.
Merci, monsieur le maire. Je voulais rappeler à notre collègue que le César de Pompidou, c'est Jacques Chirac qui a tranché après exact. 6 mois de tergiversation. Et Sarkozy a rendu d'ailleurs hommage à César. Monsieur le maire était là, nous aussi. Et il a rendu ce hommage à César et Pompidou, à ceux qui l'ont initié. Et je suis content qu'il soit bien terminé. Pour revenir à ce point, permettez-moi, monsieur le maire, de m'inquiéter d'une chose. Bien, naturellement, on votera cette motion et on partage avec le rapporteur tout l'intérêt et l'ensemble, tout l'intérêt de Pompidou, ça va de soi. Mais je suis interpellé, et je le vois parce que je passe souvent par là, par la densification du site, et j'ai essayé d'en savoir un peu plus. Et je me suis un peu renseigné. J'ai auprès de mes collègues de la commission du suivi de l'amphithéâtre, il semblerait que cette commission ne s'est pas réunie depuis pas mal de temps. C'est ce qu'on m'a répondu. Et je souhaiterais savoir, parce qu'on a l'impression qu'il y a plus de hauteur dans les immeubles. Je crois qu'il était prévu 5 ou 6. Il y en a 8. Il y a plus d'identification. Il y en a peur qu'on ne voit plus Pompidou. Et on ne voit plus. On a parlé du contenu tout à l'heure, mais on ne voit plus le contenant. Donc j'aimerais bien que vous nous rassuriez, monsieur le maire. Et par la même occasion, mais comme Thierry Jean parlera après moi, je vous pose la question, où est-ce qu'on en est avec le palais des congrès? Je sais que Nathalie Osterlé vous a posé cette question il y a quelques conseils, mais j'aimerais bien, si vous voulez bien, nous rassurer sur cet urbanisme, sachant que la loi vous l'autorise, mais sachant aussi qu'on peut se remettre en question, surtout dans une période où à Metz, il y a quand même beaucoup de sites dans ce secteur, où il y aura beaucoup d'offres. Alors ça serait dommage peut-être d'en arriver à un point de non-retour avec cette densification qui s'annonce et qui nous inquiète. Merci, monsieur le maire.
Alors je vais passer la parole à Thierry Jean qui répondra sur le palais des congrès parce que c'est lui qui suit ça de plus près. Je vous donne simplement tout de suite la réponse sur la densification. C'est exactement le cahier des charges qui a été produit. Non, docteur. C'est exactement le cahier des charges qui a été produit par Nicolas Michelin, qui a été choisi par mon prédécesseur. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est la hauteur du César en question. Voilà.
Il y avait un vélum. Ici, il y avait une maquette ici.
Voilà. Excusez-moi, docteur, je réponds à votre question, j'arrive pas à répondre parce que vous avez autour de vous des gens. Donc, merci de suggérer à vos colistiers de me laisser répondre. Je réponds exactement ce que je viens de dire. On est exactement dans le vélum et les volumes qui avaient été prévus du temps de mon prédécesseur. Voilà, maintenant la parole à Thierry Jean.
Merci. Oui, d'abord une précision à mon ami Hassen. Tu es dur avec Sarkozy. Il a fait 2 sorties culturelles pendant le mandat. Il a visité les îles du Péloponnèse sur le yacht de Bolloré et il est venu à Pompidou. Et il a préféré choisir là où le contribuable messin payait plutôt que là où Bolloré payait. Et par ailleurs, comme ils n'ont pas trouvé de photo de Sarkozy avec un livre, il fallait bien qu'il fasse un autre choix. Voilà. Alors, ils n'ont pas trouvé de photo de Sarkozy avec un livre. Voilà.
La princesse de Clèves.
Voilà.
Non,
moi, je voulais plus sérieusement rappeler que, à l'origine, hein, même si il n'y a pas de ressources affectées, mais l'idée, nous avons créé au début de ce mandat, nous avons instauré à Metz une taxe de séjour et c'est le produit de cette taxe de séjour à 10 ou 20 000 euros près qui est affecté à Pompidou. Et ce qui prouve que il y a des taxes vertueuses puisque l'effet de levier de la contribution à public à Pompidou est quand même très significatif. Et je voudrais simplement rappeler que, en gros, en vitesse de croisière, je ne parle pas de la première année qui a été tout à fait exceptionnelle, mais en vitesse de croisière, Pompidou injecte 30 à 50 millions d'euros dans l'activité messine. Et lorsqu'on sait que le chiffre d'affaires du commerce messin est de l'ordre du milliard d'euros, eh bien, ça fait 3 à 5 %, ce qui est considérable, parce que une variation de 3 à 5 %, hein, ça permet de faire passer de moins 2 à plus 1 ou plus 3, et ça permet de changer la physionomie d'une conjoncture, ça permet d'inverser la décroissance ou la croissance d'un PIB local. Donc, il faut pas négliger cet impact-là. Alors cet impact-là, il passe bien évidemment principalement par le tourisme, ce qui justifie l'affectation de la taxe de séjour à cet équipement, même si je souscris au moins en partie à ce que disait Patrick Thiel, nous n'avons pas dans cette ville de vraie culture touristique, elle est naissante et il faut contribuer à la créer, mais la puissance publique n'a là qu'un rôle incitatif et que accessoirement un rôle d'acteur, mais je suis très très étonné de cette petite aigreur que je note lorsque j'entends notre ami Patrick dire que le label Ville d'Art et d'Histoire ne sert à presque rien, parce que nous sommes depuis le début du mois de janvier, depuis le 7 ou le 8 janvier, nous sommes commune touristique. Nous avions délibéré dans ce sens pour en faire la demande. Le préfet y a répondu favorablement début janvier. On avait eu au mois de novembre, je crois, le label Ville d'Art et d'Histoire. On travaille maintenant sur le label Station de Tourisme. On travaille sur l'UNESCO, ça a été dit, j'y reviendrai pas. Hein, il y a un travail de fond à mener et cette ville prend conscience petit à petit de son intérêt et l'énorme effet Pompidou, c'est tous les gens qui sont venus à Metz pour Pompidou. Il y a quand même 40% des visiteurs qui ne sont venus à Metz que pour Pompidou. Hein, je vous laisse rapporter ça au chiffre que nous a donné William Schumann. Si 40% des visiteurs ne sont venus que pour Pompidou et si une partie significative de ces gens-là quittent Metz en disant « mais finalement, c'est une belle ville, on ne me l'avait pas dit », eh bien, on a atteint notre objectif et je crois que ça mérite d'être rappelé. Voilà. Où en sommes-nous sur le Palais des Congrès? Sur le Palais des Congrès, on en est à la phase programme au sens professionnel du terme, c'est-à-dire que le programmiste travaille et a travaillé sur deux hypothèses de programme. Les deux sont entre la gare et le parvis. La question qui reste ouverte aujourd'hui et qu'il va falloir trancher très rapidement, c'est est-ce qu'on met le Palais des Congrès, quand on sort de la gare, par l'actuelle passerelle, est-ce qu'on le met sur la droite de cette passerelle ou sur la gauche? Hein, il y a deux sites, les deux sites sont faisables, restent des choses à étudier, des choses que Monsieur Antoine connaît bien, la question du répéteur, puisque d'un côté il y a le répéteur. Donc qu'est-ce qu'on fait du répéteur? On sait combien ça coûte de le déplacer. Est-ce qu'on est-ce qu'on fait ce choix? Donc il reste un certain nombre de questions qui doivent être tranchées rapidement, parce que nous voulons qu'il y ait un programme qui soit élaboré avant que nous choisissions le délégataire. Parce que parallèlement à cette démarche d'élaboration du programme immobilier, l'AGLO a lancé un appel d'offres en vue de déléguer l'exploitation du Palais des Congrès à partir de son ouverture, mais cette délégation de services publics prendra effet au 1er juillet 2012. Pourquoi ? Parce qu'un Palais des Congrès, c'est pas quelque chose qui se commercialise dans l'instantané. Hein. Les congrès importants s'anticipent 3 à 5 ans avant, donc il faut commencer à commercialiser maintenant, mais en même temps, on veut que le délégataire puisse s'exprimer sur la conception du produit, puisque la délégation de services publics de l'AGLO, ça va être 3 choses. L'exploitation du Palais des Congrès à partir du moment où il sera ouvert, la commercialisation du Palais des Congrès dès le 1er juillet 2012 et la gestion de la phase transitoire avec les équipements dont nous disposons, qui ne sont pas ceux dont on rêve bien évidemment, mais qui ont quand même le mérite d'exister. On arrive quand même à organiser des congrès, y compris des congrès très importants, comme le congrès des dirigeants commerciaux de France, qui aura lieu au mois de juin à Metz. Donc l'objectif est toujours d'être capable de démarrer les travaux du Palais des Congrès avant la fin de l'année prochaine. Sachant que, en parallèle, troisième parallèle, hein, première parallèle le programme, deuxième parallèle la DSP, troisième parallèle, c'est l'étude juridique et financière sur le montage optimal à choisir. Est-ce qu'il convient de créer une SEM qui portera l'équipement? Est-ce que nous devons nous situer en maîtrise d'ouvrage public? Est-ce que nous devons déléguer aussi à un promoteur la construction? Ça, ce sont des choses que nous étudions en parallèle. Justement, ces trois parallèles s'expliquent par la volonté que nous avons d'aller vite. Voilà.
Merci. Alors, je voudrais que peut-être Antoine Fonté réponde sur des points précis, et en particulier sur l'intervention de M. Maréchal, pour éclaircir la situation des employés. M. Fonté.
Merci, M. le maire. Écoutez, je fais crédit de la ténacité de Jacques Maréchal dans son combat syndical. Je crois qu'il est connu pour ça. Je lui fais crédit de la non-participation de l'État au financement et à la subvention du centre Pompidou. Par contre, pour le reste, je tiens beaucoup à relativiser ses propos parce que suite à différentes interventions, dont une où je suis moi-même intervenu via la presse contre Faune Régie à une certaine période, il y a eu des choses qui ont bougé. Il faut le rappeler, et M. Maréchal le sait quand même. Il y a eu 2 réunions de travail présidées par le président Seban lui-même qui a rencontré les salariés avec l'ensemble et une bonne partie du conseil d'administration pour les écouter de manière collective. Ça, c'est connu et il le sait. Qu'il y a une 2e réunion de travail à Paris avec Faune Régie, toujours avec le président Seban et une partie du conseil d'administration. Qu'à l'issue, il y a une synthèse de fait de tous ces travaux et ces discussions et concertations au conseil d'administration du centre Pompidou, où un certain nombre de mesures ont été prises. Et ces mesures, il faut les valider telles positivement. Alors, positivement, alors même si ça ne règle pas la question de fond, est-ce qu'il faut titulariser l'ensemble du personnel au sein du centre Pompidou ou sous-traiter? C'est une question de choix, ça se discute certainement, la discussion reste ouverte et elle continuera à rester ouverte. Par contre, sur des questions très précises qui sont aujourd'hui, et Maréchal l'a dit, Jacques, il y a des personnels en temps partiel, oui, c'est vrai, il y a des temps qui gagnent 840 euros ou 870 euros. Ils sont en temps partiel, c'est pas des CDI. Donc, le marché actuel était scindé en 4 lots sur 4 secteurs d'intervention différenciés, ce qui sectionnait un peu l'intervention des salariés la précarisation. Les discussions nous ont mené à dire que dans le nouveau marché, tout cela serait réduit sur 2 lots, ce qui permettrait d'utiliser la compétence et la polyvalence des salariés sur l'ensemble des secteurs et des 4 lots pour permettre de les passer tous en CDI. Donc c'est un progrès et une avancée considérable. Ça veut dire que le CDI ne va plus être à temps partiel, mais à temps plein. Donc ça, c'est une première avancée et c'est important. Et donc le salaire en conséquence qui va évoluer. Donc ensuite, il y avait un problème sur l'encadrement. Faune-Régie a pris des mesures immédiates puisqu'il a changé l'encadrement, puisque le superviseur actuel est quelqu'un qui a été recruté sur le plan local et auquel il a adjoint deux chefs d'équipe qui sont des personnes du personnel en place. Donc là aussi, c'est une avancée importante. Maintenant, sur le reste, il y avait la question du paiement du salaire en deux fois. Cette question ne pourra être résolue que dans le cadre du nouveau marché public et de l'entreprise qui s'est retenue. Je rappelle que c'est un marché public ouvert et que Faune-Régie n'a pas la certitude de remporter ce marché. D'accord ? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, il y a eu ensuite des concertations individuelles avec chaque salarié accompagné de la CGT intérieure à Faune-Régie, puisqu'il y a une CGT intérieure, Monsieur Maréchal, absolument. Des délégués de Paris ont accompagné ces salariés sur place. Bah, écoutez, ça m'a été confirmé encore aujourd'hui. Donc ça veut dire que ces concertations ne sont pas des concertations pénalisantes pour donner des sanctions, mais pour continuer à ajuster les dysfonctionnements qui avaient été relevés dans le cadre de ces différentes concertations. Donc, on évolue favorablement sur ce dossier. L'appel d'offres fait des recommandations, parce que je rappelle quand même qu'un appel d'offres public ne peut pas contenir de clauses léonines qui empêchent les entreprises de réaliser le marché. Donc, à partir de là, il y a effectivement des recommandations qui sont des recommandations fermes et dont certaines ont déjà été mises en application par Faune-Régie. La prochaine entreprise retenue, dont on ne connaît pas le nom aujourd'hui, on verra au mois de mai quand les marchés seront rentrés et qui sera retenu, tiendront compte de l'ensemble des éléments que je viens de décrire là. Donc voilà, il y a eu des inquiétudes réelles, donc personne n'a nié. Les concertations ont permis de régler un certain nombre de problèmes et donc nous avançons positivement sur ce dossier et nous restons très vigilants et on ne peut pas me soupçonner d'être un pro-patronat et un suppôt du capital, n'est-ce pas ?
Cette explication, je mets au voix, y a-t-il des oppositions à ce versement ? Une opposition ? Des abstentions ?
Pour vous dire que
Allez-y, docteur.
Oui, merci, monsieur le maire.
Expliquez votre vote.
On votera bien sûr cette motion. Notre attachement à Pompidou n'est pas du tout discuté ce soir. Mais je suis déçu des réponses qui m'ont été données, aussi bien pour mes interrogations sur l'urbanisme. Et je suis inquiet pour le Palais des Congrès, parce que ça fait quand même au moins un an, sinon deux, qu'on nous a présenté le pré-projet de financement. Je me souviens, on a parlé de 60 millions d'euros. Et je trouve qu'aujourd'hui, rien n'est conclu. On ne sait pas où installer ce palais des congrès, alors que la densification, on en parlait tout à l'heure. On ne sait pas ce qu'il y aura comme portage. Donc je voulais exprimer notre inquiétude sur la réponse de Thierry Jean, à moins que vous vouliez, monsieur le maire, que ce soit votre successeur qui l'inaugure. Mais là, je vous promets qu'on vous citera. Merci.
Docteur, il s'agit du centre Pompidou. Alors, est-ce que j'ai pas compris ce que vous votiez ? Vous avez dit que vous votiez pour.
J'ai dit dès le départ qu'on votera pour.
Très bien. Et le reste n'était pas le sujet. Nous sommes d'accord.
Le reste était un cavalier, mais qui était d'accord. Important, voilà. Important d'en parler ici. Voilà.
Très bien. Alors, il y a que des pour. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous remercie.